Radio Galère 88.4 et comme chaque semaine, on retrouve la Palestine pour l'émission Une heure en Palestine. Aujourd'hui, l'émission est réalisée par Marseille-Gaza-Palestine et elle commence par un immense salut à nos amis et camarades Jacques Sansin et Bénédicte Boré pour leur apporter force, sérénité et énergie dans un moment difficile pour les deux. Et on commence tout de suite par une information sur Marseille à travers des publications sur Facebook. Dimanche 29, Marseille commémorait les 80 ans des rafles et de la destruction du vieux Marseille. Rafles co-organisées par les nazis allemands, accompagnés de leurs collaborateurs zélés français et effectuées par 12 000 policiers français. 1200 officiers français, main dans la main avec l'armée d'occupation allemande et nazie. C'était l'opération Sultan, lancée directement par Adolf Hitler. Si vous n'avez pas pu assister à cette cérémonie, je vous invite à vous rendre sur le Vieux-Port, sur le quai de la Fraternité, sur le Vieux-Port, où se trouve une magnifique exposition qui relate à la fois les rafles du quartier Saint-Jean, mais aussi les rafles de l'Opéra, au cours de laquelle des milliers de nos concitoyens ont été arrêtés, déportés, et pour nombreux d'entre eux, parce que juifs, exterminés dans les camps d'extermination nazis. Et quelle ne fut pas, après cette très belle et émouvante cérémonie pour commémorer les 80 ans du crime contre l'humanité, que fut la rafle organisée par les nazis et leurs complices collabos. Quelle tristesse de l'avoir salie par cette phrase assez immonde de Benoît Payan. Hier encore, à Jérusalem, l'antisémitisme a tué. Pas de mots pour dire le dégoût alors que les discours précédents disaient si bien le besoin de mémoire, de courage, de nécessaire lutte contre l'extrême droite, pour la justice, la paix, la dignité. Notre maire, Benoît Payan, est trop fin politicien pour ne pas savoir le poids des mots et pour ne pas connaître la réalité de la situation au Proche-Orient. Au moment où l'on commémore la destruction d'un quartier de notre ville, les arrestations de milliers de Marseillais et la déportation de plusieurs milliers d'entre eux, parce que juifs, vers les camps d'extermination, ceci par les nazis et leurs collaborateurs français, et pas par les Palestiniens, il a choisi de faire une attaque. De l'attaque qui a eu lieu le vendredi dans une colonie Neve Yaakov, dans une colonie illégale israélienne, un crime antisémite, la plaçant directement à la suite des crimes nazis. Ceci est une faute lourde. Nous avons besoin dans notre ville d'hommes et de femmes politiques courageux, pas d'élus capables de céder aux pressions de quelconque lobby. Ce que Benoît Payan est capable de faire lorsque l'Ukraine ou l'Arménie sont victimes de violations du droit international doit être fait lorsqu'il s'agit de la Palestine, même si l'agresseur est l'État israélien. Le maire de Marseille, et nous le déplorons, n'a pas eu un mot pour plus de 250 Palestiniens, des dizaines de femmes et d'enfants assassinés par l'occupation en 13 mois, dont 33 en ce mois de janvier 2023. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit le maire de Marseille au cours de cette cérémonie, nous rappelons que l'oubli est un outil politique au service des tyrans et nous lui indiquons que nous ne laisserons pas oublier les centaines de morts palestiniens. On va directement maintenant de Marseille à Lyon, où les mêmes pressions et les mêmes effets s'exercent. Et nous avons avec nous Taoufik Tahani, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité, la principale association de solidarité avec le peuple palestinien en France. Bonjour Taoufik Tahani.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous avez écrit, Taoufik, me semble-t-il, après ce qui s'est passé à
Lyon,
que les vassaux de Itamar Ben-Gvir, de Bezalel Smotrich et Benjamin Netanyahou, les soutiens de l'extrême droite israélienne, ont honteusement hué lors de la cérémonie de vendredi dernier, Véronique Moreira, vice-présidente de la métropole de Lyon, lors de son discours de commémoration de la Shoah, montrant ainsi qu'ils n'ont aucun respect pour les victimes. Seul le soutien à la politique criminelle israélienne les intéresse et les mobilise. La vérité sur les atrocités de l'occupation leur fait tellement mal qu'ils ont utilisé tous les moyens pour faire pression sur le maire de Lyon, Grégory Doucet, y compris l'ignoble utilisation des victimes de la Shoah, pour obtenir l'annulation de la table ronde sur 30 ans après les accords d'Oslo. Alors, pouvez-vous nous rappeler les faits que nous n'avons pas vraiment vécu à Marseille et compris
Oui, écoutez, vous avez rappelé dans votre introduction une chose qui est absolument dangereuse. Il faut vraiment qu'on prête attention un peu plus à ces choses-là. C'est lorsque le maire de Marseille, il dit que hier à Jérusalem, l'antisémitisme a tué. C'est en parlant de la fusillade qui a eu lieu dans la colonie de Neve Yaakov. Et il veut donc amalgamer ce qui s'est passé en Europe. Et vous avez bien résumé ce qui s'est passé justement contre nos compatriotes juifs, contre les juifs d'Europe de façon générale. Il veut le réduire à ce qui touche maintenant la politique israélienne. Mais c'est exactement ce qui s'est passé à Lyon. Et cette utilisation abusive de la Shoah, du génocide qui doit unir tout le monde contre ce qui s'est produit par l'Allemagne nazie, qui doit unir tout le monde, maintenant il y a une utilisation absolument scandaleuse de la part des soutiens d'Israël pour justifier la politique criminelle israélienne. Donc ce qui s'est passé à Marseille, avec ce qui s'est passé à Lyon, c'est à peu près la même chose. Regardez, je dis simplement l'acte 1. L'acte 1, bon, comme un peu partout en France, bon, on organise des débats. Il y a des villes qui organisent des débats, il y a des associations, etc. Des fois, des associations en partenariat avec les villes. Et c'est ce qui allait se produire à Lyon pour le 1er février, donc aujourd'hui. Une invitation à une table ronde sur 30 ans après les accords d'Oslo, que s'est passé, c'est quoi la situation en Palestine, en Israël, concernant la paix, concernant la guerre, concernant tous les événements qui se produisent. Parmi les invités, donc, il y avait Salah Hamouri, mais il y avait d'autres personnes qui connaissent très très bien le sujet. Et Salah Hamouri, on sait très bien que bon, c'est un avocat qui connaît très bien, par exemple, la situation des prisonniers politiques, qui fait partie des débats maintenant qui traversent le mouvement Solidarité, mais qui traversent également tout ce qui s'intéresse à la question israélo-palestinienne. Donc il y avait une invitation pour une table ronde, rien d'anormal. L'acte 2, il y a une mobilisation, mais télécommandée, de la part de l'ambassade d'Israël et puis le soutien inconditionnel de l'extrême droite israélienne pour essayer de saboter cet événement. Donc, mais comment l'attaquer? Parce qu'ils ne veulent pas, surtout pas parler de la situation en Palestine, en Israël. Ils ne veulent pas parler de l'occupation israélienne, ni de la détention politique. Donc on va essayer de salir une personne, donc c'est Salah Hamouri. On va l'attaquer, on va se baser sur la propagande israélienne le concernant. Et puis donc on va mener une action très très forte, coordonnée, mais vraiment bien coordonnée, pour qu'il n'y ait pas cet événement. Et donc ils ont utilisé tous les moyens, ils ont demandé à leurs amis députés donc d'intervenir au sein de l'Assemblée nationale, des tweets, des posts Facebook, des articles sur tous les sites communautaires qui défendent la politique israélienne, l'ambassade d'Israël, ils s'activent pour effectivement utiliser exactement les mêmes éléments de langage. C'est pour ça qu'on voit que c'est vraiment bien coordonné. Alors ces éléments de langage, c'est quoi? C'est que Salah Mouris, il appartient à une organisation terroriste qui s'appelle le Front Populaire de Libération de la Palestine, donc qui est reconnu comme une organisation terroriste par l'Union européenne, et donc il ne faut pas donner la parole aux terroristes. Bon, Salah Mouris n'a jamais reconnu être membre de cette organisation qui est le FPLP. Il ne l'a jamais dit, ni au tribunal en Israël, ni ici, ni lorsque les journalistes l'ont interrogé sur ses opinions politiques, rien du tout. Mais on tient, on lui colle ceci. Donc le deuxième point, c'est quoi? C'est que, c'est un terroriste qui avait participé à une tentative d'assassinat du grand rabbin, on va dire sans fin.
Quel mensonge.
Sauf qu'il n'y a jamais eu, tentative d'assassinat de ce rabbin. C'est-à-dire même le procès-verbal concernant la condamnation de Salah Mouris, ils disent qu'il avait l'intention, avec d'autres personnes, d'organiser une opération contre le grand rabbin. Ce qui est totalement différent entre eux. Et puis, donc, c'est les mêmes qui disent, mais Salah, il reconnaît ceci aussi. Non, Salah n'a jamais reconnu ceci. Salah, il a plaidé coupable tout en clamant son innocence. Parce qu'il avait le choix soit entre ne rien faire et donc écoper de 14 années de prison, ou bien essayer de trouver un deal et avoir 7 années de prison. Donc, sur le conseil de ses avocats, il a choisi de faire. Donc, il n'a jamais été condamné pour le meurtre ou pour la tentative de meurtre. Par contre, les amis d'Israël ici, ils ont leur propre langage et il décrète des choses dont il ne connaît strictement rien. Donc, tout ceci, ça a été bien orchestré, bien ficelé. Le troisième acte, c'est que l'intervention également de l'Organisation juive européenne pour faire annuler ceci par la voie juridique. Sauf qu'ils ont été déboutés parce que le tribunal administratif, il les a déboutés et il a dit que de toute façon, il ne voit aucun problème à l'organisation de cette conférence. Et le maire de Lyon, dont je veux saluer le courage, même s'il y a eu annulation, il a tenu bon et il a dit que de toute façon, il n'y a aucune raison pour qu'il cède à ce chantage. Il les a même invités, si vous voulez même envoyer quelqu'un de chez vous, en parlant en pro-israélien, pour participer au débat, qu'il soit le bienvenu, qu'il puisse venir et puis exposer un petit peu son point de vue politique. Mais tout ceci, là, on voyait que de toute façon, ils ont oublié la question d'antisémitisme. Ils sont passés à la question de la défense directe d'Israël. Donc ils ont été déboutés. L'acte 4, et ça c'est le plus grave, c'est l'utilisation politique de la part de Darmanin, Gérard Darmanin et ses sbires, pour ce qui ressemble à un lynchage de Salah Mouris. Donc d'où il y avait, par exemple, hier, une question du député Mathieu Lefebvre, qui travaillait dans le cabinet de Gérald Darmanin. Donc, il a fait une question également pleine d'amalgames, pleine de mensonges, pleine de fake news. Et la réponse, parce que la question a été adressée à Darmanin, c'est Darmanin qui répondait, mais dans les mêmes termes, avec plein d'amalgames, plein de mensonges, plein de... Donc, les deux, c'est coordonné. Ça se voit que, de toutes les façons, même la question de Mathieu Lefebvre, elle a été posée en accord avec Darmanin pour qu'il lui donne l'occasion de répondre. Mais quel est le but de Darmanin, en fait? Parce que, de toute façon, ce qu'il a exprimé hier lors de la réponse, où il traite Salah de terroriste, d'antisémite, etc., etc., n'a strictement rien à voir avec la position de la France. La position de la France, exprimée par Alain Juppé déjà à l'époque, qui s'était activé pour obtenir la libération de Salah Mouris. Dans la première tranche, quand il était condamné à 7 ans de prison, Alain Juppé, il a fait des démarches. Après, il a même, dans une réponse à une sénatrice, il a dit la chose suivante. Je déplore que les autorités israéliennes n'aient pas pris de décision de remise de peine concernant Salah Mouris, d'autant que les aveux faits à l'audience n'ont été corroborés par aucun élément de preuve.
Tout
ce qui, par exemple, ici en France, s'équivaut à libération immédiate. Il n'y a aucune preuve. Ça n'a été corroboré par aucune preuve. Ça, c'est Alain Juppé qui le disait. Ce ne sont pas le comité de soutien à Salah. Mais Après, il y a eu Salah Hamouri, il a été emprisonné, il a connu la détention administrative trois fois. S'il était, si Israël ou si ses sbires, ses vassaux, ici en France, je les appelle les vassaux parce qu'ils sont des vassaux, s'ils avaient la moindre preuve de ce qu'il racontait, on lui aurait signifié les charges contre lui. Or, lors de ces détentions administratives, selon moi, on lui a jamais signifié aucune charge contre lui. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont strictement aucune preuve contre Salah Hamouri pour qu'il passe toutes ces années en prison gratuitement. Et ça, on le sent également quand il y avait la décision d'expulsion, de la déportation, j'utilise le mot déportation de Salah Hamouri parce que c'est le terme qui correspond au droit international. C'est quelqu'un qui est déporté de chez lui. Il habite chez lui, c'est son chez lui à Jérusalem, et il est déplacé abusivement. C'est ce qu'on appelle déportation en droit international. Donc, la ministre, elle a été extrêmement claire en disant que la France, elle condamne l'expulsion de Salah Hamouri. Nous condamnons avec la décision des autorités israéliennes, contraire au droit d'expulser de M. Salah Hamouri vers la France. Elle ajoute, depuis sa dernière arrestation, la France s'est pleinement mobilisée, y compris au plus haut niveau de l'État, pour faire en sorte que les droits de Salah Hamouri soient respectés, qu'il bénéficie de toutes les voies de recours et qu'il puisse mener une vie normale à Jérusalem, où il est né, réside et souhaite vivre. Et elle ajoute un point qui est extrêmement important, qui fait très mal à Darmanin, Mathieu, Lefebvre et les amis, les inconditionnels de l'extrême droite israélienne, exactement. Elle ajoute, la France a également engagé de multiples démarches auprès des autorités israéliennes pour manifester de la manière la plus claire son opposition à cette expulsion d'un résident palestinien de Jérusalem-Est, territoire occupé au sens de la 4e Convention de Genève. On ne peut être plus clair. Ça, c'est la position de la France. La position de la France avec laquelle nous sommes d'accord, même si on reprochait à la France de ne pas avoir suffisamment agi pour assurer les droits de notre compatriote Salah Hamouri. Donc ce qui a été exprimé hier dans l'hémicycle par Mathieu Lefebvre et la réponse de Darmanin, c'est leur propre position, c'est pas la position de la France. C'est honteux de participer comme ça au lynchage de quelqu'un dont on a, qu'on a privé de sa liberté d'expression. Donc l'annulation de prévu à Lyon, il a été obtenu grâce à une décision de justice, parce que j'ai dit tout à l'heure que la justice, elle a débouté ceux qui voulaient obtenir l'annulation, mais grâce à une décision politique. Ce que nous vivons maintenant, c'est une utilisation, comme j'ai dit tout à l'heure, de la Shoah, de l'Holocauste, etc., à des buts purement politiques qui n'ont strictement rien à voir avec la lutte contre l'antisémitisme. Et nous avons un exemple pareil. Ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est exactement ce qui a été fait à Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne. Donc on commence à diffuser les fake news, à faire des amalgames, et puis à essayer de discréditer l'opposant politique, n'importe lequel, sous cette forme. Et surtout, on ménage les vrais antisémites, parce que les vrais antisémites, ils se trouvent avec eux à côté d'eux dans les bancs de l'Assemblée nationale, mais qui n'ont jamais été inquiétés sur cette question. Le niveau politique zéro auquel nous sommes arrivés avec ce genre de députés, ce genre de ministres d'Armanin. Mais si vous voulez, on sait pourquoi ils font ça, parce que surtout avec ce qui se passe maintenant avec ce gouvernement d'extrême droite israélien qui malgré tout ce que les tentatives de ses amis à l'étranger pour essayer de le faire voir sous un aspect démocrate, etc. Les ministres là-bas, ils leur disent, mais on n'a rien à cirer de votre qualificatif. Si vous voulez nous qualifier de fascistes, qualifiez-nous de fascistes. C'est ce que Itamar Ben-Gvir a déclaré. Et puis, ils veulent nous empêcher de parler également de la situation de l'apartheid, l'état d'apartheid. Oui. C'est une question d'apartheid qui existe en Israël et en Palestine. Et il suffit qu'ils ouvrent un petit peu les yeux, je me rappelle d'un historien de Haaretz, il dit, mais c'est pas la peine d'aller chercher, de faire des commissions d'enquête ou chercher ou bien faire des débats sur cette question, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas, malgré les rapports d'Amnesty International, de B'Tselem et de Human Rights Watch sur l'apartheid israélien. Il a dit, mais il suffit d'aller poser la question à Itamar Ben-Gvir, Smotrich, puis est-ce que vous voulez un traitement différencié pour les Palestiniens et pour les Israéliens, pour les Juifs et pour les non-Juifs, oui ou non? Et ils vont répondre oui. Et d'ailleurs, tout ce qui est en train d'être voté, ils ne veulent pas qu'on parle de ça, mais il faut qu'on le fasse, tout en défendant Salah et les droits de Salah. Il faut qu'on parle de ce qui se passe maintenant à la Knesset. Il y a une batterie de lois qui est faite pour, mais contre les Palestiniens. Ça s'appelle quoi? Quand on, par exemple, on veut réhabiliter la peine de mort pour les Palestiniens, pas pour les Juifs. On veut faciliter la démolition de maisons pour les Palestiniens, pas pour les Juifs. On veut faire des alléger les possibilités de tirer sur des gens, par exemple, qui résistent dans le temps de pierre et tout, etc., pour les Palestiniens, pas pour les Juifs. Donc nous voyons une batterie de lois qui sont en train d'être discutées, votées, adoptées par la Knesset, qui sont des lois différenciées. Il y a des lois pour les Juifs et il y a des lois pour les Palestiniens. Est-ce qu'il y a une autre façon de démontrer que ben, il s'agit d'un traitement différencié qui signifie l'apartheid, selon la Convention internationale pour l'élimination des crimes d'apartheid. Et voilà la situation. Donc, je pense que, de toute façon, le mouvement de solidarité de la Palestine a très bien compris cette situation. Nous savons que la situation est difficile, qu'il y a une telle propagande et puis une telle complicité d'une certaine classe politique française bien organisée avec des organisations communautaires pro-israélienne pour faire taire tous les soutiens à la cause palestinienne ou aux droits nationaux du peuple palestinien. Nous sommes conscients de tout ceci, mais nous savons également que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on continue à parler du droit, des droits des gens. Et puis, en se référant au droit international, aux références des droits de l'homme, etc., tels qu'ils sont universellement reconnus. Donc, voilà la situation. Voilà ce qui s'est passé à Lyon, voilà ce qui se passe actuellement, voilà le climat nauséabond qui est véhiculé par Darmanin et un certain nombre de députés.
Merci Taoufek Tahani. Restez avec nous encore un moment. Je voudrais juste, moi, d'abord revenir sur ce qu'a écrit le collectif Palestine 69, collectif 69 pour la Palestine. Il dit « Rien n'a été non plus épargné à la mairie de Lyon, ni à la mémoire des victimes de l'Holocauste. La journée du souvenir de la libération du camp d'Auschwitz a été entachée par des vociférations indécentes. Le camp pro-israélien relaie les fake news et, comme d'habitude, instruit le procès en antisémitisme, arme de destruction massive. Leur but est toujours le même, faire taire toute critique de l'État d'Israël. Le but est également d'interdire toute parole qui n'est pas alignée sur la doxa de l'État d'apartheid israélien. Celle-ci voudrait faire de tout juif de par le monde un relais de la politique israélienne. Nous savons cette équation fausse, car de plus en plus de citoyens de confession juive s'opposent au narratif israélien. De même qu'ils nous disent de ne pas importer le conflit israélo-palestinien, les mêmes qui nous disent de ne pas importer le conflit israélo-palestinien viennent de faire la démonstration inverse. Nous adressons une invitation à Salah Hamouri afin qu'il puisse rencontrer les Lyonnais, Lyonnaises attachées aux droits humains. Nous continuerons, quant à nous, de lutter pour les droits imprescriptibles du peuple palestinien. Et cela nous rappelle, nous, à Marseille, ce qui s'est passé en décembre. Ce sont des pressions sur la mairie qui ont fait annuler la salle la veille de la conférence du président Amnesty International, Jean-Claude Samouyé, qui devait présenter le rapport de l'ONG internationale sur l'apartheid israélien. Là encore, le fallacieux prétexte qui est utilisé, c'est politique, ne trompe personne. D'autres conférences portant sur les violations du droit dans différents pays ont lieu à la Maison des Associations sur la Canebière. Quant au mensonge affirmant que le véritable objet de la conférence avait été caché, il a été rapidement été éteint, après la diffusion des échanges de mails entre Amnesty International Marseille et l'adjoint chargé des associations. À Aix, ce sont des menaces sur la sécurité qui ont poussé le président de l'université à annuler le jour même la conférence qui devait avoir lieu. Nous n'ignorons pas les appels des services de sécurité français demandant si les ONG organisatrices, c'est-à-dire Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme, avaient reçu des menaces, ce qui était totalement faux. Mais les tentatives visant à museler les voix qui veulent faire entendre le droit, la justice en Palestine occupée ont fait long feu. La conférence a eu lieu à Marseille dans une salle bondée. À Aix, elle aura lieu prochainement et toutes les mesures sont déjà prises pour assurer la sécurité. Des projections de films vont se multiplier pour montrer le visage de l'apartheid israélien. Et à l'automne, une grande conférence se tiendra à Marseille sur le thème « Oslo, 30 ans après ». Salah Hamouri et de nombreuses personnalités palestiniennes participeront à des tables rondes dans le centre-ville et dans divers quartiers de notre ville et dans le département aussi, avec les services d'ordre nécessaires. Donc nous nous ferons en sorte que le fallacieux prétexte de la sécurité ne puisse pas être utilisé. Et nous ne nous tairons pas. Bien au contraire, nous allons amplifier ce que nous avons à dire. Alors, je voudrais, avant de terminer, Taoufik Tahani, revenir sur cette visite encore discrètement annoncée que Netanyahou va encore faire à l'Élysée. L'Élysée qui avait été fort prompte à féliciter le Premier ministre israélien de sa réélection et de son gouvernement avec l'extrême droite. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que c'est quand même encore assez discret. Hein, ça n'a pas vraiment été annoncé dans les grands médias.
Oui, de toute façon, c'est une visite qui n'était pas prévue. Mais bon, écoutez, nous savons tous pourquoi il vient. Comme nous savons pourquoi Blinken, le secrétaire d'État américain, il est parti faire une tournée au Proche-Orient. Il a rencontré l'autorité palestinienne, mais également les Israéliens, les Jordaniens, les Égyptiens, etc., etc. Et nous savons que ce que Netanyahou est en train de manifester, il a trois objectifs, en fait, quelque sorte. Trois objectifs. Le premier, c'est un peu demander aux pays européens de soutenir clairement son gouvernement et d'arrêter de tergiverser sur le fait que c'est le gouvernement le plus à l'extrême droite sur l'échiquier politique israélien. Pour ceci, je pense que de toute façon, il ne va pas avoir beaucoup de mal à les convaincre, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune décision qui a été prise par des pays européens, ni la France, ni les autres, pour protester contre l'existence de racistes, suprémacistes au sein du gouvernement de Netanyahou. Le deuxième point qui l'inquiète énormément, c'est la tournure qui est prise en Palestine, et puis donc la résistance du peuple palestinien, pas uniquement une résistance qu'on a vue armée à Jénine ou ailleurs, mais également cette résistance populaire qui s'organise d'une façon extraordinaire un peu partout. On n'entend pas parler beaucoup. Ce qui s'est passé, par exemple, ce matin, et hier, lors d'une grande grève générale dans le quartier Jabal al-Mukabber à Jérusalem, donc le mont... C'est une colline qui est à l'intérieur même de Jérusalem, c'est un quartier palestinien, où il y a planification de démolition de maisons. Oui. Donc les jeunes se sont rassemblés, ils ont mis des barrages, bloqué les routes, incendié des pneus, etc., etc., pour empêcher les bulldozers d'accéder. Et c'était une résistance qui était vraiment extraordinaire, et ils ont pu protéger quelques maisons. Je ne sais pas pour combien de temps, parce que bon, c'est tellement... disproportionner les forces que bon, les autres peuvent revenir à n'importe quel moment pour démolir les maisons des Palestiniens. Mais il y a cette résistance elle est là, et puis il y a cette décision qui a été prise. Alors, j'espère que de toute façon ils continueront à l'appliquer, et c'est ce qui inquiète le plus Netanyahou, c'est l'arrêt de la coordination, de la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Si elle est vraiment, parce qu'elle a été annoncée là cette fois-ci d'une façon officielle, Et donc Netanyahou, il veut, d'ailleurs c'est ce qu'il a demandé à Blinken, et c'est ce que Blinken a demandé à Mahmoud Abbas dans sa rencontre, il veut que les Palestiniens renoncent à cet arrêt de la coopération sécuritaire, parce qu'ils savent très bien que avoir directement leur armée, leur police vis-à-vis des Palestiniens, ça va être le bain de sang contre les Palestiniens, mais ça va être également une image dégradée pour Israël pour longtemps. Puis le troisième sujet sur lequel, donc, de toute façon, ils sont ils sont presque, presque d'accord avec lui, c'est sur la question iranienne. Parce qu'on voit d'ailleurs, de toute façon, il y a eu des bombardements en utilisant des drones d'installations militaires dans une usine d'Espahan. Donc pour détruire ce qu'ils ont dit, une usine de fabrication d'armement iranien. Donc là, c'est la porte ouverte à une nouvelle guerre, peut-être, entre Israël avec les soutiens des États-Unis, mais il veut obtenir le soutien de la France et d'autres pays européens, ce qui serait vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que là, ça serait une guerre atroce où toutes les armes vont être utilisées, et ça va être le sang et la tristesse. Et voilà, donc il a trois sujets à discuter, et ces trois sujets, ils sont tous insensés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va dans l'apaisement, il n'y a rien qui va pour la paix, il n'y a rien qui va pour le respect des droits de l'homme, c'est tous des va-t-en-guerre. Et puis donc j'ai besoin de faire, de créer plus de drames dans une région qui est déjà très, très enduite. Donc je ne sais pas pourquoi le chef de l'État, il va l'accueillir, d'autant plus que je pense qu'en ce moment, il a d'autres chats à fouetter. Mais traiter Netanyahou, le criminel, qui est à la tête d'un gouvernement de fachos, comme un chef d'État ordinaire, et puis le recevoir lorsque l'autre il le décide,
oui.
Alors que Netanyahou, on sait très bien que plusieurs fois, il a boudé des ministres français qui sont allés et souhaitait le rencontrer, et il ne les a pas rencontrés parce qu'il y avait quelques petites déclarations par-ci, par-là. Mais il y a un autre sujet, je crois, qui va certainement être discuté, et c'est celui qui concerne l'impunité d'Israël, parce que vous savez que récemment, il y avait un vote qui est extrêmement important à l'ONU sur la question de l'occupation prolongée de la Palestine. Et donc, il y a l'ONU qui a demandé, il y a une résolution qui a été présentée par les Palestiniens avec d'autres pays amis, qui demande à la Cour internationale de justice, qui est l'unique cour de l'ONU, de donner un avis sur l'occupation prolongée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'une occupation qui est conforme au droit international, mais ça s'apparente à une annexion. Ce que les Israéliens ne veulent absolument pas. Les Américains aussi, parce qu'ils ont voté contre cette résolution. La France est là, courageusement, elle s'est abstenue.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, malheureusement. C'est-à-dire, on ne sait même pas comment ils peuvent expliquer le fait que une résolution qui demande un avis à la seule cour de l'ONU, ou bien la plus importante des cours de l'ONU, comment on peut ne pas supporter quoi, Et donc, c'est ça aussi, c'est une question qui travaille Netanyahou pour dire, bon, vous verrouillez tout ce qui est la question de la Cour pénale internationale qui s'intéresse au cas israélien et qui, donc on a entendu le procureur général de nouveau qui a dit que de toute façon il va se rendre dans la région pour faire avancer l'investigation de la CPI sur les crimes israéliens. Et il y a la Cour internationale de justice qui va, de toutes les façons, elle va donner son avis sur cette question. Donc il essaie d'obtenir des soutiens auprès des pays européens parce que celui des États-Unis, il l'a forcé. Voilà.
Merci Taoufik Tahani. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui sont précieuses pour nous à Marseille parce qu'on n'a pas toujours des personnes spécialisées qui viennent parler. On a Pierre Samboul qui est ici. Merci beaucoup pour cette intervention et nous allons nous engager justement à travailler plus encore en direction des élus et autres pour que lorsque ça là et lorsque les conférences auront lieu à Marseille, eh bien il y ait un maximum d'élus de la majorité municipale, nous avons nos députés et nous avons la population qui sera aussi fortement intéressée pour entendre autre chose. Et je voulais ajouter à ce que vous venez de dire aussi qu'il y a eu déjà en 2004 cette déclaration de la Cour internationale de justice qui déclarait illégal le mur de l'apartheid et qui pressait tous les États à faire en sorte, parce que ce sont des décisions qui ne sont pas contraignantes, les décisions de la Cour internationale de justice, et qui...
Elles sont
éminemment importantes parce que c'est la plus haute autorité juridique avant même la création de la Cour pénale internationale. Et
oui,
tous
parce
les...
que la CPI, ce n'est pas une instance onusienne.
Tout à fait.
Alors que la Cour internationale de justice, c'est une... Je vais juste ajouter un petit point sur la question des élus, parce que vous avez dit que vous allez travailler avec les élus sur les questions. Sur les... Oui, le terrain est propice, hein, parce que nous avons été accueillis par plusieurs villes, plusieurs communes, etc., où on a organisé des débats sur la Palestine, où il n'y avait aucun problème, où il y avait un soutien de la part des villes qui était extraordinaire. Et j'ajoute aussi un autre point, c'est que maintenant, contrairement à la mandature d'avant, nous avons beaucoup d'amis au sein de l'Assemblée nationale et au Sénat qui organisent et qui sont prêts à organiser des débats, y compris à l'enceinte de l'Assemblée nationale ou du Sénat sur ces questions, y compris sur la question de l'apartheid israélien, comme ça va être le cas le vendredi prochain, à l'initiative de la sénatrice Esther Benbassa, donc au Sénat.
Oui, Esther Benbassa, que nous saluons et que nous espérons un jour voir à Marseille aussi, dans une conférence. Merci beaucoup, Taoufik. Moi, je reviens avec un petit hommage aussi à notre ami Dominique Grange. Alors, c'est un texte de la campagne BDS que j'ai repris, qui apporte tout son soutien et son réconfort à la chanteuse et militante des droits humains, Dominique Grange, dans le traitement indigne et blessant qu'elle vient de subir autour de la parution programmée de l'édition allemande de sa BD « Élise et les nouveaux partisans ». Un mot, un seul, cité dans la postface de l'œuvre, le mot « apartheid », et l'ouvrage est censuré dans les librairies allemandes. C'est un acte de censure inacceptable, alors que l'apartheid en Palestine-Israël est une réalité documentée, notamment par le rapport d'Amnesty International. Ni les éditions Delcourt qui ont publié cet ouvrage en 2021, ni les auteurs et autrices Dominique Grange et Jacques Tardy, qui a illustré le texte, n'ont été avertis. Une grossière attitude de la part des éditions Carlsen, qui ont refusé la sortie de l'ouvrage en déclarant « Nous souhaitons éviter de nous retrouver dans l'inextricable débat BDS. Une telle preuve de frilosité, de manque de courage et de soutien au régime colonial d'Israël. » Heureusement, Dominique Grange, elle, n'a jamais manqué de courage dans ses combats. Elle a toujours su se placer du côté des opprimés. Oui, la censure est en marche, mais la résistance, elle aussi, est là. Merci Taoufik, et on continue sur une pause musicale.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria, et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur. Mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halt à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu.
Voilà, c'était Dominique Grange et sa chanson Détruisons le mur. On revient sur cette attaque de la semaine dernière, ces attaques de la semaine dernière, où vendredi, un tireur palestinien de Jérusalem-Est occupé a tué 7 personnes dans une colonie illégale selon le droit international. Vendredi soir, à Neve Yaakov, à Jérusalem-Est. L'attaque a eu lieu près d'une synagogue. Selon les médias et l'armée israélienne qui ont identifié l'agresseur présumé, lequel a été abattu par la police. Alors en France, on nous a parlé, on nous a dit d'abord que c'était dans une synagogue, ensuite c'était à côté d'une synagogue. En fait, c'est dans une rue où il y a une synagogue, ce qui ne change rien au fait que 7 personnes ont été tuées. La personne qui a tiré était Kairi Alkam, 21 ans, du quartier Altour de Jérusalem. Itamar Ben-Gvir, ministre israélien d'extrême droite de la sécurité intérieure, s'est rendu sur les lieux de la fusillade où il a été sifflé et chahuté par les manifestants. « C'est sous votre surveillance » aurait crié une personne. « Voyons ce que vous faites maintenant. » Et dans une vidéo de Ben-Gvir sur les lieux, on peut entendre des manifestants chanter « Mort aux Arabes et mort aux terroristes ». Ben-Gvir répond avec approbation « Mort aux terroristes, c'est exact ». Personne n'a revendiqué la responsabilité de la fusillade, pas plus le Hamas que les djihadistes islamiques. Un porte-parole des groupes de résistance a toutefois salué l'opération et l'a décrite comme le début d'une réponse aux raids israéliens dans la ville de Jenin en Cisjordanie, qui, la veille de cette attaque à Neve Yaakov, a fait 9 morts, plus 2 autres décédés, blessés sur le moment et décédés par la suite. Le raid de Jenin est l'opération la plus meurtrière en Cisjordanie depuis au moins 2005, a déclaré un responsable des Nations Unies. Dans cette opération, 2 mineurs et une femme ont été tués et 20 Palestiniens blessés, dont 4 gravement. Donc parmi ces 4, les 2 qui décéderont les jours suivants. Al-Haq, un groupe palestinien de défense des droits humains, a déclaré que le raid a commencé par une attaque sur une maison dans le camp de réfugiés de Jenin, à l'heure où les enfants se rendaient à l'école. 3 occupants du bâtiment ont été tués par les bombardements israéliens. Les militaires ont également rasé une partie d'une association communautaire dans le camp et ciblé les générateurs d'électricité, coupant l'électricité et Internet dans la région, y compris à l'hôpital principal de Jenin. Et rappelons que le département de néonatalité a été envahi par les gaz lacrymogènes lancés à profusion par l'armée israélienne. Depuis Gaza, des Palestiniens ont tiré des roquettes vers Israël après le raid meurtrier et Israël a frappé des sites à Gaza qui, selon le porte-parole de l'armée israélienne, auraient été utilisés pour fabriquer des roquettes. Vous le savez, l'État d'Israël, qui tue en permanence, jour après jour, des Palestiniens, a une manière de présenter ses assassinats comme toujours, sont toujours des représailles ou bien des actions dirigées contre des terroristes. Ce n'est jamais la politique de colonisation et l'apartheid israélien qui frappe. Et pourtant, cette politique est un exemple du régime plus large de colonisation, de peuplement et d'apartheid, a ajouté Al-Haq, le groupe de défense des droits. Jérusalem est un épicentre des efforts d'Israël pour déplacer les Palestiniens afin qu'ils puissent être remplacés par des colons. Les Palestiniens de Jérusalem sont soumis à la violence quotidienne des colons, de la police et d'une bureaucratie qui vise à les chasser de la ville. Des dizaines de milliers de résidents palestiniens de la région de Jérusalem ont été assiégés pendant plusieurs jours en octobre dernier. Des dizaines de Palestiniens ont été exécutés dans les rues de Jérusalem et les ruelles de sa vieille ville dans des attaques et des attaques présumées depuis fin 2015. En novembre de l'année dernière, 2 Israéliens ont été tués dans 2 attentats à la bombe de la ville et à la suite de ces attentats, le même Itamar Ben-Gvir, ce leader d'extrême droite du nouveau gouvernement israélien, qui est aussi un disciple du rabbin Meir Kahana, dont les enseignements génocidaires ont inspiré le massacre de la mosquée Ibrahimi en 1994. Itamar Ben-Gvir a appelé à l'exécution extrajudiciaire des dirigeants de la résistance palestinienne. Il a dit, entre autres, « Nous devons revenir au meurtre ciblé. Nous devons imposer un couvre-feu au village d'où les terroristes sont venus. » On continue avec une toute petite pause musicale. Elle arrive.
Le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit « Je suis pas raciste, mais quand même les bicots. » Chaque fois qu'il y a un sale coup, ben il faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine, dit un ancien para à quelques arrivistes. Ces mecs c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau.
Voilà, c'était Renaud et sa chanson « Les charognards ». La fusillade de vendredi à Jérusalem a marqué premier israélien dans le contexte de l'occupation en 2023. Des soldats, des policiers et des colons israéliens ont tué plus de 30 Palestiniens depuis le début de l'année. D'autres Palestiniens sont morts à la suite de blessures subies au cours des années précédentes. L'année dernière, selon le suivi de Electronic Intifada, 207 Palestiniens ont été tués par l'armée, la police et les colons israéliens en Cisjordanie, à Gaza et en Israël au cours de l'année ou sont morts de blessures subies précédemment. L'année 22 a vu donc le plus grand nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes et les colons en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, depuis la deuxième Intifada il y a deux décennies. Plus de 50 de ces morts se sont produits dans la région de Jenin, selon l'organisation Al-Haq. Une escalade majeure d'une violence encore pire n'est pas à exclure en 2023, puisque le gouvernement actuel d'Israël est le plus à droite et même ouvertement fasciste. Après le bain de sang de jeudi à Jenin, trois experts indépendants des Nations Unies, des droits de l'homme aux Nations Unies, ont déclaré conjointement qu'aucune de ces violences ne se produirait si Israël mettait fin immédiatement et inconditionnellement à son occupation illégale, vieille d'un demi-siècle, comme l'exige le droit international. Ces experts ont noté qu'il n'y avait eu aucune mise en accusation pour le massacre israélien dans le camp de réfugiés de Jenin en 2022, au cours duquel plus de 50 Palestiniens ont été tués et plus de 400 maisons ont été détruites. Al-Haq a déclaré que bien que le nouveau gouvernement soit explicite dans la façon dont il veut étendre le projet colonisateur, la politique d'usage excessif de la force d'Israël n'est pas une nouveauté. Cette politique est un exemple du régime plus large de colonisation de peuplement et d'apartheid, a ajouté le groupe de défense des droits humains. Les Palestiniens de Jérusalem sont soumis à la violence quotidienne des colons, de la police et d'une bureaucratie qui vise à les chasser de la ville. Jérusalem est un épicentre des efforts d'Israël pour déplacer les Palestiniens afin qu'ils puissent être remplacés par des colons. Neve Yaakov, la colonie où a eu lieu la fusillade de vendredi, a été construite sur des terres confisquées aux communautés palestiniennes voisines de Beit Hanina, Isma et Aram. Un plan schéma directeur 2000 pour Jérusalem montre l'intention d'Israël de dominer la ville en garantissant un ratio démographique de 70% de juifs israéliens et 30% de palestiniens dans la ville, selon Al-Haq. Human Rights Watch observe qu'une partie des efforts d'Israël pour maintenir sa domination passe par la judaïsation des zones à forte population palestinienne, y compris Jérusalem. Cette politique qui vise à maximiser le contrôle juif d'Israël israélien sur les villes, sur les terres, concentre la majorité des Palestiniens qui vivent à l'extérieur des grandes villes d'Israël, principalement juives, dans des enclaves denses et mal desservies, ajoute Human Rights Watch. Entre-temps, cette politique restreint l'accès des Palestiniens à la terre et au logement tout en favorisant la croissance des communautés juives voisines. Depuis l'occupation du secteur oriental de Jérusalem en 1967, Israël a révoqué le statut de résidence de plus de 14 500 Palestiniens de la ville. Contrairement au massacre d'Israël à Jenin, la fusillade meurtrière à Jérusalem a été rapidement et fermement condamnée par les États-Unis, l'Union européenne et la France, qui n'avait eu qu'un timide mot la veille pour dénoncer les crimes commis à Jenin et qui est parti immédiatement. Et justement d'ailleurs, parce que les assassinats peuvent être dénoncés, ce n'est pas ce que nous contestons, mais ce que nous contestons, c'est le deux poids, deux mesures, parce qu'un mort palestinien a la même valeur qu'un mort israélien. Israël a tenté de justifier le raid meurtrier de jeudi contre Jenin en affirmant qu'il aurait contrecarré une attaque imminente des résistants palestiniens, bien qu'il n'ait jamais précisé ni quand, ni où, cette attaque présumée devait avoir lieu. Ce que l'effusion de sang de vendredi à Jérusalem démontre encore une fois, que meurtre, arrestation, torture, démolition punitive, punition collective et toute autre forme de persécution qu'Israël peut infliger aux Palestiniens ne peuvent assurer ce qu'Israël appelle la sécurité. Tant que le régime racial, brutal d'Israël continuera de gouverner la vie de millions de Palestiniens, la seule certitude est que d'autres vies seront perdues. Ceci était un texte de Electronic Intifada avec en particulier Ali Abounena qui y a contribué, ainsi que la journaliste Maureen Claire Murphy. Et maintenant, encore un tout petit moment de pause musicale.
Ils reprendront les chemins de la guerre avec des armes toujours plus effroyables. Ils rempliront encore leur cimetière de pauvres diables. Ils rependront l'épée de Damoclès dessus le cœur d'autres générations. Puis ils voudront opprimer la jeunesse, ces pauvres cons. Ils rempliront mon cœur de peine, mais s'ils n'auront pas ma haine. Ils referont des lois liberticides, puis ils nous interdiront d'être en joie. Imposeront, paradoxe stupide, d'avoir la foi. Ils rebâtiront d'autres édifices à l'effigie d'encore d'autres idoles. Rebrûleront des livres, des offices et des écoles. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils frapperont les faibles et la sagesse.
C'était Les Ocres de Barbac avec cette magnifique chanson « Ils n'auront pas ma haine ». Alors, on part à Gaza. Alors, avant de partir à Gaza, quand même dire un petit mot, parce que depuis 2006, après tout ce que vous avez entendu là sur Jérusalem et ce que vivent les Palestiniens à Jérusalem, eh bien, figurez-vous que depuis 2006, Jean-Claude Gaudin avait signé avec Loubansky, le maire alors de Jérusalem occupé et annexé, il avait signé un accord de partenariat. Il est temps maintenant que nos élus politiques, à la mairie, avec à leur tête M. Payan, aient le courage de mettre un terme à ce partenariat, parce que d'abord il est totalement illégal par rapport à la politique, à la position française. Il est illégal par rapport au droit international, puisque la communauté internationale, les Nations Unies, ne reconnaissent ni l'occupation ni l'annexion de Jérusalem. Rappelons que le plan de partage de 1947 prévoyait pour la ville Jérusalem eh bien, un statut indépendant des deux États qui devaient être créés. En 1947-48, les autorités israéliennes et les autorités militaires ont envahi une partie de la ville, contrairement au plan de partage. Et en 1967, ils ont occupé, puis annexé en 1981 la totalité de la ville. Mais je voudrais juste dire un mot avant que cela se termine, dans quelques minutes, sur ce qui se passe à Gaza, où le blocus illégal, lui aussi, depuis plus de 15 ans, provoque une pénurie de machines à rayon X dans la ville de Gaza. Et les autorités israéliennes empêchent l'entrée de ces appareils. Mahdi Amer, 35 ans, a perdu son père au début de la nouvelle année. Il avait 65 ans et il avait eu une crise cardiaque. Et l'état de son cœur nécessitait des examens qui auraient pu le sauver, mais cela n'a pas été possible tout simplement parce qu'il n'y avait pas le matériel nécessaire. Alors il y avait une autre possibilité, c'était de le transporter à Jérusalem, dans l'hôpital palestinien Makassed, qui est à Jérusalem-Est, où il aurait pu avoir le traitement adéquat. Mais les autorités israéliennes n'ont pas délivré le permis qu'il aurait autorisé à quitter la bande de Gaza pour aller être soigné à Jérusalem. Et donc, il est mort. Depuis plus d'un an, selon le ministère de la Santé de Gaza, Israël empêche l'entrée à Gaza de dispositifs de diagnostic médical, d'équipements essentiels tels que des appareils mobiles et des appareils de radiographie standard, ainsi que des pièces de rechange pour ces appareils. Avec une foule de médicaments et d'autres équipements médicaux interdits d'entrée, le blocus israélien a laissé le secteur de la santé de Gaza dramatiquement sous-approvisionné et dans un état de crise constante. Cela en dépit des directives et des règles internationales claires, en vertu des conventions de Genève et d'autres accords internationaux, selon lesquels le droit aux soins de santé doit être préservé en temps de guerre. Le blocus médical israélien de Gaza a été décrit comme une violation grave des droits des résidents aux soins de santé à Gaza et à l'extérieur. Les patients atteints de cancer sont particulièrement vulnérables au manque d'accès aux appareils de radiographie. Cette capacité de suivre la propagation d'un cancer est essentielle à la lutte contre la maladie et même s'il est difficile d'obtenir un permis de voyage, les frais de déplacement sont exorbitants. Certains centres de santé privés ont des appareils de radiographie ou d'imagerie par résonance magnétique. Celui du principal hôpital Al-Shifa de Gaza est souvent cassé en raison de l'incapacité d'importer des pièces de rechange. Mais le coût de leur utilisation est souvent prohibitif à Gaza, où le salaire moyen n'est que de 10 dollars par jour, tout simplement parce que le blocus limite toutes les capacités d'emploi pour les Palestiniens de Gaza. Les professionnels de la santé sont sans défense. Toutes nos unités hospitalières souffrent de l'accès limité aux dispositifs médicaux, a déclaré Mohamed Al-Shamiya, directeur de l'hôpital Al-Shifa. Ce sont des équipements qui sauvent des vies pour nos patients, dont beaucoup finissent par mourir parce que nous ne pouvons pas les traiter correctement. Nous sommes souvent obligés de déplacer un patient de l'unité de soins intensifs à un autre étage, souvent pendant qu'il est branché à l'oxygène, afin de prendre une radiographie. C'est malsain. Aggravant les frustrations, les professionnels de santé disent qu'il n'y a aucune raison pour Israël d'empêcher ces dispositifs et pièces de rechange pour leur réparation d'entrer dans Gaza. Beaucoup sont des dons, a souligné Ibrahim Abbas, directeur de l'unité d'imagerie médicale du ministère de la Santé à Gaza, citant l'exemple de 14 dispositifs bloqués en octobre 2021, tous donnés par le Conseil économique palestinien pour le développement et la reconstruction, le PECDAR. Ces appareils d'imagerie sont toujours en stockage, en attente de la permission d'entrée, explique-t-il. Et vous pouvez aisément imaginer que ces appareils entreposés, et nous le savons parce que nous avons l'expérience au cours des années précédentes, au cours des décennies précédentes, de la manière dont sont traités les matériels placés sous douane par les autorités israéliennes, ils sont certainement profondément dégradés et auraient besoin de maintenance, d'entretien. Ils seront sans doute, si un jour ils sont autorisés à rentrer dans la bande de Gaza, quasiment inutilisable. Alors Fadel El-Mouzaini du Centre palestinien des droits de l'homme, le PCHR, a déclaré qu'Israël devait honorer ses obligations en vertu du droit international, les accords d'Oslo et le traitement et le transfert qui en résulte des tâches de fourniture de services de santé à l'autorité palestinienne n'exemptent pas l'occupation israélienne de ses obligations de faciliter les soins de santé dans les territoires palestiniens. Plus de 13 500 patients de Gaza attendent actuellement de subir une intervention chirurgicale majeure ou mineure. Un certain nombre de patients que le secteur de la santé est tout simplement trop sous-équipé pour traiter. Voilà, il est 18h57. Juste avant de terminer avec notre générique, eh bien nous allons rappeler à notre maire, M. Payan, que l'oubli, nous ne permettrons pas que l'oubli s'abattent sur notre ville et empêchent toute solidarité avec le peuple palestinien. Il l'a bien dit la semaine dernière, l'oubli est un outil politique au service des tyrans. Nous ne permettrons pas à la tyrannie de l'occupant israélien de faire oublier ce que vive le peuple palestinien. Et nous lui demandons expressément, comme vont le faire très prochainement toutes les organisations regroupées dans le collectif Palestine en résistance, de résilier le partenariat avec la ville de Jérusalem, partenariat illégal, signé par Jean-Claude Gaudin et le maire Lubanski de Jérusalem. Bonne semaine à tous sur Radio Galère 88.4 et à la semaine prochaine pour une heure en Palestine.